Europe 1.
Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Nous étions en gare Saint-Lazare à Paris il y a une demi-heure. Les cheminots à la pointe du combat contre la réforme des retraites. On prend tout de suite la direction de la gare de Toulouse-Matabiau. On retrouve le correspondant d'Europe 1 sur place, Benjamin Péter. Comment se présente la situation ce matin ?
Eh bien écoutez, la gare Matabiau est étonnamment calme ce matin. Il faut dire que le trafic est très fortement perturbé. Un seul intercité va circuler aujourd'hui entre Bordeaux, Toulouse et Marseille. Côté TGV et Ouigo, 60% des trains sont supprimés ici. Pour le TER, la plupart sont remplacés par des bus. Pas toujours évident pour les voyageurs que j'ai pu croiser. Mais la plupart soutiennent malgré tout le mouvement, comme Dominique qui part pour le Lot-et-Garonne.
Je prends le train tous les jours à 6h04 pour Valence d'Agen.
Et là aujourd'hui,
je suis bloqué à Montauban. Après, il y a un bus qui est affrété jusqu'à Agen. Mais bon, j'ai fait grève déjà la dernière fois. Je suis enseignante et aujourd'hui, deux fois dans le mois, ça fait beaucoup. Mais je suis à fond moi, avec ceux qui manifestent et qui ont fait le choix pour moi de prendre une journée sans salaire.
Voilà, alors je vous le disais, donc c'est très calme ici. Peu de trafic aussi sur les routes, sur la rocade où il y a très peu de difficultés. Signe que beaucoup se sont organisés, ont posé une journée ou sont en télétravail. Alors ici, il y a 10 jours, entre 30 et 50 000 personnes avaient défilé dans les rues. Un vrai succès pour les organisateurs. Et on attend au moins autant ce matin dans le cortège qui s'élancera à partir de 10h.
Benjamin Péter, correspondant d'Europe 1, en direct de la gare de Toulouse-Matabiau. Pas ou peu d'intercité, moins de TGV, on vient de l'entendre. En revanche, le trafic est annoncé comme normal pour les Eurostar et les Thalys. Trafic perturbé à la RATP, comptait une rame sur trois dans le métro parisien en moyenne. Dans l'aérien, on annonce l'annulation d'un vol sur cinq à Orly. Mouvement moins suivi dans les écoles. 50% d'enseignants grévistes dans les écoles élémentaires et primaires selon le principal syndicat. Ils étaient 70% le 19 janvier. Aucune prévision pour les collèges et les lycées.
Un mouvement également suivi dans les raffineries, mais cette journée sera aussi marquée par des manifestations dans tout le pays.
240 rassemblements prévus. Les syndicats espèrent 1 million de manifestants au moins. Le gouvernement et les services de renseignement tablent sur une forte mobilisation. 11 000 policiers et gendarmes seront d'ailleurs sur le terrain, dont 4 000 rien qu'à Paris pour encadrer les manifestations.
Deuxième journée test pour les syndicats, pour le gouvernement également, l'affrontement entre partisans et adversaires du texte a déjà commencé à l'Assemblée nationale.
Un début du marathon législatif avec l'examen devant la commission des affaires sociales. La gauche dénonce un projet injuste et injustifié. Le Rassemblement national ne veut pas entendre parler des 64 ans. Les députés ont validé l'article 1er. Il prévoit l'extinction progressive de plusieurs régimes spéciaux comme ceux de la RATP. Alexandre Chauveau, au-delà de cette réforme, il a aussi été question du travail et du sens qu'on lui donne.
Oui, sorte de tour de chauffe avec un clivage droite-gauche assez net. Le travail, instrument d'émancipation pour la majorité, un asservissement pour une partie de la gauche. Alors il a bien été question de points plus précis du texte, comme lors de cet échange sur la suppression des régimes spéciaux entre le député Renaissance Marc Ferracci et le communiste Pierre Dharréville.
Lorsque on commence, comme c'est le cas avec les régimes spéciaux, à financer notre système par répartition en faisant appel au budget de l'État, eh bien on n'est plus dans un système de répartition.
Si vous êtes si attaché que cela à ne pas faire appel aux contribuables pour financer la protection sociale, il faut arrêter la foire aux exonérations. 75 milliards d'euros par an qui sont financés par le contribuable. Ça, c'est pas des décisions que nous avons prises, ça, monsieur Ferracci.
Elisabeth Borne, de son côté, continue d'étudier les pistes pour améliorer le texte. La principale demande de la droite concerne le passage de 44 à 43 années de cotisation pour les personnes ayant commencé à travailler avant 20 ans. Selon un poids lourd du gouvernement, l'exécutif est prêt à lâcher 3 milliards d'euros supplémentaires à condition de faire de nouvelles économies sur d'autres dépenses.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe, un commentaire en forme de point final d'Emmanuel Macron hier à l'occasion de son déplacement à La Haye. La réforme est indispensable si l'on veut sauver notre système par répartition.
La fin de citation. 7h05 sur Europe 1, nous sommes le mercredi 1er février et la France tourne le dos à sa stratégie anti-Covid, le fameux tester, tracer, isoler.
Oui, on va prendre 24 heures d'avance, ce changement d'approche dicté par la baisse des contaminations, moins de 4500 tests positifs quotidiens, baisse également dans les hôpitaux, moins de 900 patients en soins critiques. Le coronavirus change de statut, Yasmine Akatou, c'est une petite révolution.
Eh bien, c'est la fin de la stratégie tester, tracer, isoler. L'isolement de 5 jours après un test positif ne sera plus requis. Les personnes positives ne recevront plus le fameux message de l'assurance maladie pour être informées de la bonne conduite à tenir pour éviter de propager le Covid. Les nouvelles mesures concernent aussi les cas contacts qui n'auront plus l'obligation de se faire tester 2 jours après avoir croisé la personne contaminée. C'est aussi la fin du fichier contact Covid de l'assurance maladie. Il permettait jusqu'alors d'identifier les cas cas positifs et leurs cas contacts. Vous n'aurez donc plus à déclarer vos cas contacts, mais les autorités comptent sur la responsabilité de chacun pour avertir toute personne vue 48 heures avant de tomber malade. Enfin, alors que l'on pouvait faire un arrêt maladie en quelques clics sur le site Amélie après avoir été testé positif, il faudra désormais passer par une consultation chez le médecin pour être arrêté.
Yasmina Katou, spécialiste santé à Europe 1.
La guerre en Ukraine, les alliés ont toujours du mal à parler d'une seule et même voix à propos des livraisons d'armes lourdes.
Après les chars, les avions de combat, premier acte hier à l'occasion du déplacement d'Emmanuel Macron à La Haye, le président se montre plutôt ouvert sur le sujet.
Par définition, rien n'est exclu. Nous n'avons pas ces demandes aujourd'hui formulées, mais à chaque fois qu'il y a des demandes, on les considère et on regarde aussi ce qui est utile et ce qu'on peut faire et dans quel délai.
Le chef de l'État pas opposé par principe, tout comme le Premier ministre néerlandais. Il n'y a pas de tabou, dit Mark Rutte, prêt à céder ses F-16 américains à Kiev. Et comme souvent depuis le début du conflit, eh bien c'est la Maison-Blanche qui a clos la discussion. Fournir des avions, c'est non pour Joe Biden. Alexis Guilleux, le président américain, semble tracer une ligne rouge.
Oui, sauf que depuis le début de la guerre, ces lignes sont mouvantes. La position américaine change en fonction de l'évolution du conflit. Résultat, après avoir longtemps dit non, Washington a finalement consenti à envoyer de l'armement lourd en Ukraine. Mais l'objectif reste bien le même, ne pas risquer l'escalade avec Moscou. En tout cas, malgré ce non de Joe Biden, ce sujet des avions de combat fait débat aux États-Unis. Je ne crois pas que nous soyons opposés à l'envoi de F-16, expliquait la semaine dernière à un responsable du Pentagone sous couvert d'anonymat. Il n'y a pas eu de discussion sérieuse avec l'Ukraine sur ce point, affirme cette nuit un officiel américain. Mais il faudra d'abord convaincre Joe Biden, déjà réticent à l'envoi de chars lourds à Kiev. À l'approche du premier anniversaire de l'invasion, le président américain a par ailleurs annoncé qu'il se rendrait prochainement en Pologne.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Et puis les sports, le foot, Noël Le Graët, plus que jamais en difficulté par la remise de l'audit sur le fonctionnement interne de la FFF, la Fédération Française de Foot.
Premier rapport très attendu avant la version définitive prévue le 15 février. Deux personnages centraux dans cette affaire, la directrice générale Florence Ardoin et bien sûr Noël Le Graët. Europe 1 a pu consulter l'audit. Il est accablant pour le président Cyril Delamont.
Oui, principal dirigeant visé dans ce rapport provisoire de 28 pages, Noël Le Graët. Les auditions mettent en lumière, je cite, l'attitude problématique du président de la fédération vis-à-vis des femmes, qui peut être qualifiée au minimum de sexiste. Les enquêteurs considèrent que le dirigeant breton de 81 ans n'est plus légitime dans ses fonctions. Ce pré-rapport, Éric Borghini Lalus, membre du COMEX de la fédération de football, demande sur Europe 1 à Noël Le Graët de démissionner.
Le président est un peu au pied du mur, il doit prendre ses responsabilités. D'ailleurs, le 11 janvier, il avait annoncé que si le rapport devait être négatif, il démissionnerait. Donc moi, je ne doute pas qu'il tienne parole.
Les enquêteurs notent également une ambiance sexiste et violente au sein de l'instance. Dans ce document, le fonctionnement de la fédération est globalement épinglé. Les enquêteurs préconisent une réforme des statuts et un plan de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Le rapport définitif sera connu dans 15 jours, mais les dirigeants du football français ont prévu de se réunir le 9 février prochain.
Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1.
Merci beaucoup Christophe Lamartine. Petite info supplémentaire, si vous lirez ça dans le Parisien, on a des scientifiques ont capté, récapté d'authentiques messages extraterrestres, des techno-signatures en provenance d'astres proches, bon, situés entre 34 et 88 années-lumière. Hein. C'est quand même pas tout à fait la porte à côté. Voilà, bon, on n'a plus réentendu ces signaux, mais on les a entendus en 2016. Ils étaient particulièrement intrigants. Voilà pour l'info, vous l'avez. On revient sur le plancher des vaches dans un instant. On va parler de la réforme des retraites, de la stratégie syndicale avec notre premier invité, Jean-Claude Mailly, l'ancien secrétaire général de Force Ouvrière. A tout de suite.